Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mais d'abord, les titres de ce journal. De nouveaux affrontements sont signalés sur plusieurs fronts dans la province du Sud Kivu. L'AFC M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive contre les positions de Wazalendo dans le moyen plateau d'Uvira. Une autre attaque le long de la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Ruzizi. Conséquence de la coupure du réseau Vodacom à Goma, les enseignants bloqués pour recevoir leur salaire par M-Pesa. La Force syndicale nationale des enseignants redoute que cette interruption prolongée n'affecte le bon déroulement des cours. L'invité de ce journal est le docteur Christian Massoudi, épidémiologiste au sein de Médecins sans frontières à Kisangani. Il revient sur les bilans des activités de cette organisation humanitaire dans l'espace Grande Orientale au cours de l'année 2025, les principales difficultés rencontrées ainsi que les perspectives envisagées pour 2026. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. De nouveaux affrontements sont signalés au sud Kivu, dans les moyens et au plateau des territoires d'Uvira et de Fizi. L'AFC M23, soutenu par le Rwanda, a lancé hier une offensive contre les positions de Wazalendo à Kahamba et Kachaftu à partir de la localité de Mugaja, dans les moyens plateau d'Uvira. Une autre attaque a été menée à Runingu et Biriba, le long de la route nationale numéro 5, dans la plaine de la Ruzizi. Dans le haut plateau, les combats se poursuivent entre l'AFC M23 et les FARDC appuyés par les Wazalendo. Plus de détails avec Élise Kavira.
Plusieurs sources dans le mouvement citoyen lutte contre les antivaleurs pour un Congo émergent MCLA confirment le renforcement des troupes de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi ainsi que dans les moyens et hauts plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Parallèlement, la Ligue des Indignés pour la citoyenneté responsable signale que les troupes armées Turwanero, Red Tabara, Ngumino et Android affiliées au M23 intensifient les affrontements contre la coalition FARDC Wazalendo dans les hauts plateaux vers Minembwe. Ces structures citoyennes alertent l'opinion nationale et internationale sur le fait que malgré le retrait annoncé dans la ville d'Uvira, les rebelles continuent de renforcer leurs dispositifs dans les périphéries de Kitundu et vers Mulenge dans les hauts plateaux de Fizi. Selon le mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs, ces affrontements empêchent les déplacés internes de regagner leur village malgré les conditions difficiles qu'ils endurent dans leur milieu d'accueil.
Dans la province du Maniema pendant ces temps, les populations des groupements Kulu et Kasenga sont invitées à regagner leurs villages respectifs. Cet appel émane du chef de secteur de Wasongola à la suite des affrontements survenus la semaine dernière entre les Wazalendo et les FARDC. Frédéric Bouchikila rassure les habitants que le calme est désormais rétabli dans la zone après l'intervention de l'armée qui en assure à présent le contrôle. Il salue également l'implication des autorités et des élus de Kailo dans les efforts visant à restaurer la paix. On écoute Frédéric Bouchikila dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La population des groupements Kulu et Kasenga est informée de la situation sécuritaire et désormais maîtrisée sur toute l'étendue de leurs villages respectifs. Par conséquent, nous appelons une fois de plus toute la population à regagner leurs villages, à reprendre librement leurs activités quotidiennes et à permettre à nos enfants de retourner à l'école. À cet effet, nous adressons nos sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Maniema, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Conseil provincial de sécurité pour avoir prêté une oreille attentive au cri de détresse de la population des groupements cités ci-haut. Nous félicitons également le professionnalisme et le courage de nos frères de C pour les opérations menées avec succès. À ce jour, tous les villages sont libérés et la sécurité est pleinement assurée. Par ailleurs, nous saluons l'implication remarquable des élus du territoire de Kailo ayant conduit au retour de la paix dans notre milieu.
Et puis en Ituri, 30 nouveaux officiers de police judiciaire à compétence générale ont prêté serment devant le procureur général de la République près les tribunaux des grandes instances de Bounia. Cette prestation de serment marque la clôture d'une formation de 2 mois organisée dans la ville. Ce programme soutenu par l'Union européenne vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité afin d'améliorer la protection des populations et de leurs biens dans un contexte toujours marqué par l'activisme de groupes armés en Ituri. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Du 20 octobre 2025 au 20 janvier 2026, 14 formateurs ont dispensé 17 matières aux apprenants issus des territoires d'Iromou, de Mambasa et de la ville de Bounia. Pour l'Union européenne, l'objectif est de renforcer l'efficacité des services de sécurité et de justice afin de mieux sécuriser la population. Madame Aurore de Carnière, attachée de coopération à l'Union européenne à Kinshasa.
Votre travail est essentiel pour lutter contre les groupes armés, contre la contrebande, les trafics, protéger la faune et la flore exceptionnelle de ce pays. En étant capable d'intercepter les criminels potentiels, mais également aussi protéger les femmes et les enfants.
De son côté, Gloria Bassi, président du Parlement des jeunes de l'Ituri, estime que la population de l'Ituri attend désormais de ses nouveaux officiers un travail marqué par le professionnalisme.
La zone où nous sommes est affectée par plusieurs exactions des droits humains. Il va falloir à ce qu'il y ait une police qui doit être à côté de la justice afin d'arrêter tous ceux qui sont comme porteurs des troubles dans nos entités en Ituri. Non, une police qui doit continuer à ravir des téléphones ou encore à aller à la contre de ces formations qu'ils ont pu recevoir.
Ce programme prévoit également la construction de 9 infrastructures policières et la formation de 225 nouvelles recrues. Bounia, Jean-Claude Louki, Dile, Radio Okapi.
Je le disais en titre, au Nord Kivu, plusieurs centaines d'enseignants signalent des difficultés à accéder à leur salaire du mois de janvier, habituellement versé via le service MPSA. Selon la Force syndicale nationale des enseignants, FOSINAT, cette situation découle de la coupure du réseau Vodacom, survenue lundi dans la ville de Goma et dans plusieurs zones de la province. Le syndicat redoute que cette interruption prolongée n'affecte les bons déroulements des cours. Le président de la Fédération provinciale de la FOSINAT au Nord Kivu, Chamavu Bala, innocent, appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement. On l'écoute.
Ici, nous avons la BOA qui paye les 98% de tous les enseignants des écoles secondaires et 40% des bureaux gestionnaires. Leur argent passe par Mobile Money et tout ça, c'est via la SIM carte Vodacom. Nous avons aussi la TID qui a pris la paye de l'Access Bank récemment et tous les salaires des enseignants des écoles primaires et les 60% des bureaux gestionnaires qui sont payés à la TID, leur argent aussi passe par MPC. Ça. Et donc, lorsque la connexion Vodacom est coupée, nous disons que c'est couper la vie de tous les enseignants sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, une grande partie de Rutshuru, une grande partie de Masisi et presque toute la ville de Goma. C'est ainsi que nous demandons à toutes les autorités au niveau du ministère des réseaux et télécommunications de s'impliquer pour l'ouverture de la connexion Vodacom qui risque de causer des problèmes pour le bon fonctionnement de l'éducation de nos enfants.
Rendons-nous dans la province du Lualaba où la mairie de Kolwezi a rendu public mardi dernier sa nouvelle nomenclature de taux des taxes urbaines pour l'exercice 2026. La particularité de cette année réside dans l'adoption d'outils numériques destinés à réduire le coulage et à optimiser la mobilisation des recettes nécessaires au financement des projets de développement. Désormais, chaque assujetti sera identifié par un code et tous les paiements affectés au guichet unique de la mairie seront entièrement tracés. Lors de la cérémonie du lancement, le maire de la ville, Jacques Massengo Kindele, a exhorté les services prospecteurs à faire preuve de transparence dans la maximisation des recettes fiscales. Il a également réitéré ce message aux nouvelles recrues du service partenaire chargé de la digitalisation des recettes urbaines. On écoute Jacques Massengo Kindele au micro de Paulin Munanga.
Les taxes nous donnent les moyens de notre politique. Nous venons de lancer notre nomenclature. Ne soyez pas complaisants sur terrain. Parce que tout ce que vous allez faire, nous serons informés à la minute. C'est ça la digitalisation. Nous avons beaucoup de projets de développement pour la ville de Kolwezi, pour la population de Kolwezi. C'est là que la population nous attend. notre chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu, il est allé inaugurer un grand ouvrage en faveur de la jeunesse étudiantine, l'Université de Kananga. C'est des projets ambitieux qui nécessitent d'être soutenus aussi par des micro-projets dans nos différentes entités. Donc la vision, c'est lui qui la donne et nous, nous la partageons avec la population dans nos entités respectives. Et cela passe par le travail que vous êtes appelés à faire, la mobilisation des recettes.
Attirer les investisseurs et mieux préparer les entreprises congolaises à accéder au financement. Tel est l'objectif d'une conférence sur la préparation à l'investissement organisée hier mercredi à Kinshasa. L'initiative est portée par l'organisation américaine Congo River Capital, Coricap, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis. Pourquoi cet enjeu est-il crucial pour la RDC? Les explications de Nancy Atambo.
Pour les organisateurs, un pays comme la RDC qui veut se développer a besoin d'investisseurs et de capitaux. Or, en 2024 par exemple, le pays n'a capté que 0,2% de tous les capitaux risques dirigés vers le continent africain. C'est ainsi que les organisateurs se fixent pour objectif avec les entrepreneurs congolais de combler cet écart de financement. Milen Fayoulou, co-organisateur de la conférence, explique.
Des décideurs publics, des entrepreneurs, des entreprises, des fonds d'investissement. Ce forum les met en relation et nous permet de mutualiser nos efforts afin de vraiment matérialiser le potentiel de la RDC.
Les participants, en majorité des responsables d'entreprises et des banques, saluent cette initiative d'orienter les entreprises congolaises à saisir les opportunités qui leur sont offertes.
Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer avec les décideurs qui nous ont partagé leur vision qu'ils ont sur l'entrepreneuriat au niveau de la RDC. Nous avons vu à travers la session d'aujourd'hui qui a accès aux capitaux, mais c'est un problème beaucoup plus de structuration.
À travers cette conférence, les États-Unis et les entrepreneurs congolais réaffirment leur engagement à promouvoir le développement économique de la République démocratique du Congo.
Dans la province de l'Équateur, 648 825 enfants âgés de 0 à 5 ans sont ciblés pour la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite organisée dans 18 zones de santé que compte la province. Le gouverneur Bobo Boloko Bolumba a procédé mercredi à Mbandaka au lancement officiel de ses 3 journées locales de vaccination. Il a encouragé les parents à accueillir favorablement les prestataires afin de garantir la bonne santé des enfants. Des détails avec Asken Zigbia.
Cette campagne concerne 2 provinces, notamment la Chuapa et l'Équateur. Selon les données du ministère de la Santé, organisateur de la dite campagne, un cas de poliomyélite sauvage a été enregistré en décembre 2025 dans la zone de santé de Boende, en province de la Chuapa. Par ailleurs, dans la province voisine de l'Équateur, un cas de poliomyélite non circulant a été notifié en 2025 dans la zone de santé de Lutumbe. Lors du lancement, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolombo, a rappelé qu'un cas de poliomyélite avait été enregistré en 2023 ainsi que 42 autres cas notifiés en 2020 dans sa province. Pour la province de l'Équateur, l'objectif de la campagne est de vacciner 648 825 enfants de 0 à 5 ans dans les 18 zones de santé. L'autorité provinciale a exhorté tous les parents et tuteurs à recevoir les équipes de vaccination à domicile du 29 au 31 janvier 2026 afin d'assurer la protection de tous les enfants concernés. Il convient de noter que cette campagne de vaccination est organisée par le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale à travers le programme élargi de vaccination PEV. Elle bénéficie de l'appui du gouvernement provincial de l'Équateur et de plusieurs partenaires dont l'OMS, CDC, Rotary International et Gates International.
Le territoire de l'Uebo, situé dans la province du Kasaï, est gravement menacé par la progression des têtes d'érosion. La société civile locale tire la sonnette d'alarme face à l'ampleur des dégâts déjà enregistrés. Plusieurs maisons ainsi que des édifices publics ont été engloutis sans aucune intervention des autorités. Face à cette situation jugée préoccupante, la société civile appelle les gouvernements provincial et national à initier dans les plus brefs délais des projets de lutte anti-érosive afin de sauver ces territoires menacés de disparition. Détail avec André Katindenga Lamouroumé.
D'après la communauté des Luebo basée à Chicapa, une dizaine de têtes d'érosion menacent actuellement le territoire. Dans un message adressé au chef de l'État, le président de cette structure, Adonis Tujibikile, avertit que, sans une intervention urgente, Luebo risque de disparaître.
Nous traversons des moments difficiles. Les érosions qui risquent de faire disparaître Luebo sur la carte de notre pays. Sollicitons l'intervention du gouvernement central et du gouvernement provincial.
Cette information est confirmée par Basile Mbanza Kapiamba, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise de Luebo. Il souligne que plusieurs maisons et infrastructures publiques ont déjà été englouties tandis que les routes de la région sont fortement endommagées.
De grandes érosions ont déjà englouti des habitations, des infrastructures publiques et privées et continuent de progresser dangereusement.
Outre la menace des têtes d'érosion, le territoire de Luebo est également confronté à des graves difficultés liées à l'état de ses routes de desserte agricole, ce qui entrave l'évacuation des produits et affecte l'économie locale. Kananga, André Katendengala Moulmé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Cameroun, après la réélection de son candidat avec un score de 53,66% au terme de la présidentielle du 12 octobre 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, doit faire face à d'importants défis lors des prochaines élections des députés et conseillers municipaux. Certains dignitaires au sommet du parti espèrent un report de ces échéances prévues cette année.
L'invité.
Notre invité est le docteur Christian Massoudi, épidémiologiste au sein des Médecins sans frontières à Kisangani. Il revient sur les bilans des activités de cette organisation humanitaire dans l'espace Grand Oriental au cours de l'année 2025, les principales difficultés rencontrées ainsi que les perspectives envisagées pour 2026. Le docteur Christian Massoudi répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir du bilan d'activité 2025 pour MSF dans sa zone d'intervention, dans la Grande Orientale?
C'est vraiment un bilan très positif, parce que si on prend la Tchopo, c'était vraiment une année très atypique. Après un moment d'intervalle interépidémique très très éloigné pour ce qui concerne la pathologie choléra, il y avait encore résurgence des épidémies et du coup avec plus de 50% des zones de santé qui étaient en épidémie de choléra, mais on a pu faire les miens pour pouvoir intervenir dans 13 zones de santé. Il y a aussi d'autres urgences que les Ituriens ont profité au sein des MSF. Que ce soit le mouvement de la population, on a donné notre réponse malgré l'accessibilité qui était très compliquée pour arriver jusqu'à Zapaï, à la frontière avec la République centrafricaine.
Quelles sont les maladies les plus récurrentes dans toutes ces zones?
Ce sont des maladies émergentes et réémergentes, telles que les zoonoses, surtout la Mpox. Et à part la Mpox, il y a toujours cette problématique de la rougeole, parce que nul n'ignore, à partir de 2019, il y a les pays qui continuent toujours à faire face aux résurgences contre la rougeole, malgré les interventions de grande envergure qui sont prises en compte par les gouvernements. Et il y a la rougeole qui continue toujours à battre record dans nos zones d'intervention, dans les quatre DPS de l'ex-oriental.
Quelle a été l'efficacité de la réponse vaccinale dans toutes ces zones?
Je peux dire que l'efficacité de la réponse vaccinale était bonne, parce que parfois ce sont des zones de santé axées très très difficiles. MSF dispose d'une logistique quand même à mesure de faire face, qui puisse atteindre même les campements ou les îlots très très éloignés. Et avec nos stratégies de vaccination, on parvient quand même à vacciner toute la cible.
Donc, dans la Grande Orientale, l'épicentre des besoins humanitaires reste l'Ituri. Comment MSF a-t-il adapté sa réponse face à l'insécurité, notamment pour les déplacés internes?
Pour les déplacés internes, il y a toujours cette collaboration avec les autorités locales qui sont censées sécuriser les équipes lors des descentes sur terrain. Et c'était le cas. La collaboration reste toujours très très bonne, malgré l'insécurité qui se passe. Et puis, il y a aussi existence de projets réguliers qui agissent, par exemple, à Drodro, où nous supportons les camps de déplacés d'Iro, avec plus de 10 000 personnes qui y vivent à l'intérieur. On est à Angoumou, avec certaines zones, et avec la présence des groupes armés tels que les Codeco, les Zaïre, mais on parvient quand même à faire quelque chose. Donc, il y a cette implication communautaire et des autorités locales qui s'efforcent vraiment de sécuriser les équipes sur terrain.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de l'année 2025?
Il y a premièrement cette difficulté en termes d'accès, ça c'est un. L'ex-province orientale, c'est presque un pays. c'est plus que la France même en termes de dimension. Avec 83 zones de santé, ce n'est pas facile en termes de surveillance. Donc il peut y avoir des alertes qui puissent même échapper du côté du ministère et qui échappent aussi du côté des partenaires. Donc l'accessibilité paraît comme étant la première difficulté. À part ça, la deuxième difficulté, c'est la faible couverture en réseau téléphonique pour pouvoir parfaire vraiment notre système de surveillance. Et la troisième difficulté, c'est l'insécurité dans nos zones d'intervention. Donc, il y a certaines zones de santé parfois qui atteignent les seuils d'évaluation ou les seuils d'intervention, mais suite au contexte sécuritaire, parfois c'est no-go.
Quelle perspective pour l'année 2026 ?
Étant un projet d'urgence en termes de perspectives, on doit toujours faire suivre les axes. Le premier axe, c'est l'axe réactif. Quand il y a épidémie, il faudrait qu'on puisse renforcer notre système de surveillance, bien qu'il y a des défis dans les 83 zones de santé. Et c'est comme ça qu'on pense même à renforcer les points focaux de surveillance. En 2025, pardon, ils étaient au nombre de 17, mais en 2026, il faudrait qu'on puisse les rajouter au nombre de 26. Donc il y a certaines zones de santé qu'on considère comme étant à risque, qui seront couvertes par les points focaux, pour essayer de capter un peu le maximum des informations. Et à part ça, et on est dans la stratégie préventive, c'est quoi ? On s'est rendu compte que non, il faut renforcer aussi la couverture vaccinale en période de routine, parce qu'en faisant ces renforcements, ça va nous permettre aussi d'élargir les intervalles interépidémiques.
Docteur, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Christian Massoudi qui s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Alain Irung-Mochinge et mise en onde par Jean-Claude Nsala Mwanama Kengontsoalou. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiokapi.net.